Avant de lire quelques textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu es le seul vrai Dieu, tu es celui qui nous guide, celui qui nous a créés, qui a pour nous, et personnellement et collectivement, une destinée. Seigneur, merci de nous révéler encore qui nous sommes en toi, qui nous sommes par toi pour nous enraciner et demeurer en toi. Amen. J'aimerais vous lire trois textes. Un texte, plutôt le citer de mémoire, c'est le psaume 23 que tout le monde connaît, juste le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une prédication toute simple, on pourrait s'arrêter là, tout est dit. Mais deux autres textes, qui sont les textes du jour, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et dans l'Apocalypse, chapitre 7. Et j'aimerais vous lire, donc, dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 27 et 30. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et au verset 14, j'aimerais le rajouter parce que ça donne aussi tout le sens de ce chapitre. Moi, je suis le bon berger. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 7, je cherche les références, excusez-moi, à partir du verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et les quatre êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, la connaissance, l'honneur et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. » L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Monseigneur, tu le sais ?» Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Il y a des textes sur lesquels on a envie de s'arrêter et parfois de se taire, et de dire que peut-être que toute prédication, toute exhortation, elle pourrait commencer par un temps de silence où chacun relit le texte pour lui. Et ce matin, quand j'ai lu ces textes, pour finir de préparer ce que je voulais partager, je me suis dit, mais comment entrer dans ces textes? Comment faire le lien? Peut-être parce que c'est ma manière de faire et que c'est comme ça que j'arrive à construire ce que j'ai envie de partager, ce que j'accorde de partager, c'est qu'il me faut une ligne directrice pour m'aider à fixer ce que j'ai envie de, ce que j'ai à cœur de dire. Et quelque chose m'a sauté aux yeux qui m'était encore jamais apparu comme cela. Alors j'aimerais vous le partager un peu comme une clé de lecture, non pas comme une vérité absolue, mais comme une clé de lecture. J'ai toujours été étonné par Jean. Je ne sais pas si Jean vous étonne, moi j'en m'étais toujours étonné. Parce que par rapport aux autres évangélistes, il est particulier, Jean. Matthieu, Marc et Luc, on peut les tenir un peu ensemble. On a l'impression que tout en autour d'une structure un peu commune, on les appelle les évangiles synoptiques, on peut un peu les croiser facilement. Mais Jean, on a du mal à le croiser. Peut-être parce que Jean, en fin de compte, c'est pas forcément un évangéliste. Je pense, pour ma part, que Matthieu, Marc et Luc sont des évangélistes dans le sens où ils ont mis par écrit un témoignage qui est rendu à l'histoire concrète de l'événement Jésus-Christ et de son accomplissement. Marc pour les Romains, Matthieu plutôt pour des Juifs en train de devenir chrétiens, et Luc plutôt pour les païens, les goïms, les gens des nations. Et Luc a tellement bien écrit cela qu'il a fait presque une œuvre de journalisme, parce que finalement, son évangile, il faut le tenir avec les Actes des Apôtres, c'est presque un même livre. Mais Jean, c'est particulier. Jean, c'est l'évangile qui a été écrit le plus tardivement, et Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, et Jean, il a écrit l'Apocalypse. Et pour moi, comme l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres sont un seul et même livre, une clé de lecture pour moi, c'est que l'évangile de Jean et l'Apocalypse sont presque un seul et même livre. Parce que Jean est plus un prophète qu'un évangéliste. C'est quelqu'un qui voit, qui sonde les profondeurs de Dieu et qui les donne. Comment Jean pourrait-il dire, au début de son évangile, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité plein de grâce et de vérité parmi nous. » Comment peut-il dire cela? Ce n'est pas Jésus qui lui a dit cela. Ce n'est pas un enseignement de Jésus, c'est une révélation qui lui a été faite. Dès le départ, Jean manifeste que comme il est le disciple que Jésus aimait, il a plus, je dirais, une narration prophétique qu'une narration d'évangéliste. Et évidemment, tout culmine avec l'Apocalypse. Il faut tenir les deux. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Je me suis posé la question et vous savez que une des clés pour moi aussi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, qu'une des clés pour comprendre les textes, c'est de revenir dans la langue dans laquelle ils ont été écrits. Il y a deux langues bibliques, l'hébreu et le grec. Le mot prophète en hébreu, c'est nabi ou navi'i. Ça peut être traduit par, j'aime beaucoup le premier mot, c'est celui qui prophétise sous l'action de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais ça veut aussi dire celui qui a des transports. C'est celui qui est transporté au-delà de la réalité du monde pour sonder les profondeurs de Dieu. C'est celui qui voit. Souvent, dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, Dieu dit « Jean, que vois-tu ? » Dieu dit à d'autres prophètes, à Jérémie, « Que vois-tu ? Que vois-tu ? Que vois-tu ? » Le prophète est celui qui est transporté dans la réalité de Dieu et qui sonde les profondeurs du mystère de Dieu et qui vient de la part de Dieu nous les donner. C'est pour ça qu'un des autres mots pour traduire le mot prophète, c'est le mot voyant, qui n'a pas du tout le sens ésotérique et occulte qu'on lui attribue dans la superstition. Il voit. Et je crois que Jean a vu, dès son évangile, il voyait et il entendait, il sondait les mystères du cœur de Dieu pour nous les donner. Et s'il a pris une trame évangélique pour les écrire, inspirée par l'Esprit-Saint pour les faire, son récit allait bien au-delà d'un simple récit évangélique qui nous donnait les enseignements de Jésus. Et c'est pour cela que l'évangile de Jean est si profond. Vous savez que Apocalypse, ça veut dire révélation. Mais l'évangile de Jean, il nous révèle qui est Jésus. Dès le départ, il est le Verbe fait chair. Combien de fois dans l'évangile de Jean entend-on Jésus dire « Je suis le berger, je suis la porte » et encore tant d'autres choses, « Je suis le pain de vie ». Cela, on ne le trouve pas dans les autres évangiles. C'est comme si Jean, parce qu'il est prophète plus qu'évangéliste, avait accès au mystère de qui est Jésus pour nous le dire et nous le révéler. Et l'Apocalypse est comme le couronnement de son ministère prophétique, qui commence déjà avec son évangile. Et donc, si on aborde l'évangile de Jean plus comme le fruit d'un ministère prophétique que Dieu nous donne, on peut alors se poser la question, mais quel est le rôle et la mission d'un prophète ? Je me suis dit, après avoir commencé à préparer cela, que ça pourrait faire tout un objet d'une étude biblique plus approfondie. Il faudrait travailler sur ce qu'est le prophétisme biblique. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de prophète. Les musulmans ont un prophète. Mais qu'est-ce qui différencie le prophétisme musulman du prophétisme biblique ? C'est que le prophétisme biblique ne fait référence forcément au vrai Dieu, aux hommes et aux femmes que Dieu choisit pour parler de sa part. Ils voient et ils disent. Et il y a peut-être un livre qu'il faudrait lire, mais je n'ai pas le temps de vous en parler davantage, mais c'est un livre qui a été écrit par un des plus grands théologiens du XXe siècle en France. Et ce théologien n'est pas chrétien, il est juif. Il s'appelle André Néher. Et André Néher est un théologien, un philosophe et un rabbin. Ils ont fait partie à trois, ils étaient trois. Il y avait Léon Askenazi, il y avait donc André Néher et un troisième. Ils ont relevé le judaïsme francophone après la guerre 40. Le judaïsme francophone qui avait été massacré, les gens avaient été déportés, etc. Ils ont relevé le judaïsme. Et André Néher a écrit un livre qui s'appelle « L'essence du prophétisme ». Et il faut le lire pour comprendre profondément, à partir du texte biblique, à partir de l'hébreu, ce qu'est un prophète. Et donc un prophète, en fin de compte, il va dire une parole, mais il va aussi poser des actes. Vous vous souvenez, dans les textes bibliques, parfois Dieu dit à un prophète de faire quelque chose qui donne du sens, pas uniquement de dire. Il fait, il agit et il dit. Mais surtout, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, a trois grands rôles. Révéler qui est Dieu. Son être même. En révélant qui est Dieu, il révèle la volonté et le plan de Dieu. Et ce plan universel, total, cosmique, accompli. Mais il révèle aussi qui nous sommes pour Dieu. Qui nous sommes dans le plan de Dieu. Et il révèle aussi, souvent très concrètement, en quel temps nous sommes dans le plan de Dieu et quelle est alors notre destinée, notre vocation par rapport au temps que nous vivons et par rapport au plan final de Dieu. Et je pense que l'évangile de Jean ainsi que l'Apocalypse se place dans ces perspectives-là, nous révèle qui est Dieu, quel est son plan, qui nous sommes pour lui, quelle est notre vocation, notre destinée. J'ai envie, parce que le temps est un peu court, j'ai envie de lier les textes que je vous ai donnés, que nous avons lus, comme un collier de perles, pour avancer ensemble, pour voir ce qu'il nous donne. Tout d'abord, j'ai commencé par le psaume 23. Qui l'a écrit ? David. Est-ce que les psaumes sont uniquement des poèmes ou est-ce que les psaumes, pour certains, peuvent être considérés comme des récits prophétiques ? Ce sont des récits prophétiques. Vous savez bien que Jésus le cite sur la croix. Le psaume 22 nous parle clairement de Jésus. Et bien sûr, pour le peuple d'Israël, les psaumes sont des récits prophétiques. Ce ne sont pas que des récits de liturgie pour le culte. D'ailleurs, Jésus se révèle comment aux pèlerins d'Emmaüs ? En citant quel texte, à votre avis ? Les prophètes et les psaumes. Donc, l'Éternel est mon berger. Psaume 23. Et 7 siècles plus tard, que nous dit Jean ? Jésus dit « Je suis le bon ». Berger. Une affirmation sans équivoque de la divinité de Jésus. Jésus, l'Éternel est mon berger, Jésus est le bon berger. Et dans le texte que j'ai lu, dans le chapitre 10, il se termine par cette phrase extraordinaire, « Moi et le Père, nous sommes un ». Vraiment, Jean est celui qui reçoit la pleine révélation de qui est Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Quand vous lisez le chapitre 15 de Jean, où il y a ce testament spirituel de Jésus, c'est extraordinaire. Où Jésus parle vraiment de sa relation au Père, de son ministère, de sa vocation, du don de sa vie pour l'unité, visible pour le un de son peuple, comme lui et le Père sont un. Je pense que seul quelqu'un qui est dans cet esprit prophétique et qui avait accès au cœur de Dieu pouvait faire ce lien et le mettre par écrit. Oui, le bon berger, Jésus, il est l'incarnation de l'éternel berger. Parce que lui et le Père sont un. Première chose, révélation de qui est Jésus. Et puis, ça va plus loin encore, parce que le berger, si on en reste au psaume 23, qu'est-ce qu'il est dit du bon berger? Il est dit en gros qu'il guide, qu'il protège, qu'il nourrit, qu'il fait du bien, qu'il préserve des adversaires. Mais que dit Jean? Il va beaucoup plus loin. Si on va de Jean 10 à Apocalypse 17, on voit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il n'est pas uniquement que le protecteur, il est celui qui va se sacrifier pour ses brebis. Et encore plus fort, le bon berger, il devient lui-même, non pas une brebis, mais un agneau. Et c'est quoi un agneau, si ce n'est le petit de la brebis? Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Il s'est incarné, il est devenu l'un des nôtres pour nous racheter. Il s'est fait lui-même la plus petite, je dirais, partie du troupeau, l'agneau, pour racheter l'ensemble du troupeau. Le berger est allé jusque-là par amour. Il est descendu du trône de sa gloire pour se faire le dernier de tous, pour les sauver tous. Le berger donne sa vie, et c'est pour cela que Jean, lorsqu'il voit Dieu régner sur son trône, qui voit-il au milieu du trône? L'agneau immolé. C'est frappant de voir que dans le texte, je n'ai pas le temps de tout relire, mais on sent bien que Jean voit à la fois Dieu et l'agneau. Il les nomme les deux, mais ils sont sur le même trône, parce qu'ils sont finalement confondus, ils sont un, mais on arrive à voir à la fois Dieu et l'agneau. C'est mystérieux, parce que Dieu et l'agneau sont parfaitement un. Mon beau-père a une phrase qui est la sienne. Il me dit, Étienne, sur la croix, si Jésus était tout seul, je ne comprends pas. Il dit, si Jésus est Dieu, ils étaient là tous les trois, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, où il n'y avait rien. C'est peut-être maladroit. Mais comment peut-on dire un tel mystère sans maladresse? Et Jean voit cela et nous le traduit. Le peuple qui adore, il adore en vérité sur le trône Dieu et au milieu du trône, là où est Dieu, il y a l'agneau immolé. Autrement dit, le bon berger, par amour, il est devenu victime expiatoire pour nous sauver. Et c'est lui qui règne sur le trône. Et c'est lui qui a reçu la gloire, la puissance, l'autorité et la souveraineté. Pourquoi? Pour nous conduire dans les verts pâturages de la vie éternelle. Ce n'est plus que les verts pâturages que David voyait dans son humanité, comme ces verts pâturages d'une vie réussie parce que bénie par Dieu, comme ces verts pâturages d'une vie bénie par Dieu, conduite par Dieu, assumée par Dieu, vécue avec Dieu. Mais les verts pâturages du royaume de Dieu, où la mort ne sera plus, où toutes les larmes seront essuyées, où la vraie justice règnera. Et c'est extraordinaire parce que, qu'est-ce qu'il est dit dans, dans les textes que je vous ai lus? Il est dit que les brebis ne périront pas. Elles ne périront pas. J'aimerais traduire à ma manière, elles ne périront plus. Ce qui nous est promis, c'est la vie éternelle. C'est de boire aux sources de l'eau de la vie. Et là, il faut faire le bond d'Apocalypse 17, dans l'Apocalypse 7, pardon, Apocalypse 22. À la fin de l'Apocalypse, ce texte-là, c'est un de mes textes, je ne vais pas dire préférés, mais que je trouve étonnant. Qu'est-ce qu'il est dit dans cette vision qu'a finalement, au début du chapitre 22 ? Qu'est-ce qui est montré à Jean ? Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Qu'est-ce qui sort du trône de Dieu ? Le fleuve d'eau de la vie. Ça vous rappelle rien comme vision ? Ézéchiel. Jean, c'est pas n'importe qui, c'est un juif. Tout ce qu'il voit, c'est déjà nourri de tout ce qui a été reçu par les prophètes bibliques. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans Daniel, sans Ézéchiel, sans Ésaïe, sans Jérémie. Il voit cela. Enfin, oui, ce fleuve que voyait Ézéchiel, c'est dans lequel il fallait rentrer. D'où il coule ? Du trône. Mais pourquoi maintenant il peut vraiment couler ? Parce que l'agneau a été immolé et de son côté coule le fleuve de la vie. Le fleuve qui donne la vie. Le fleuve qui guérit du péché. Le fleuve dans lequel il faut plonger. Il faut s'abandonner. Il faut être baptisé. Et le mot baptisé, radicalement, ça veut dire être immergé. C'est pour ça que le prophète, d'abord, il avance comme ça. Puis après, il avance de l'eau jusque-là. Puis après, il doit s'abandonner, mais pas nager, se laisser porter. Et Jésus dira, non, il faut même quasiment y mourir pour y recevoir la vie et en ressortir ressuscité. Le fleuve de la vie coule, coule, coule. Et qu'est-ce que fait ce fleuve de vie ? C'est étonnant. Donc il coule du trône de Dieu et de l'agneau. Dieu et l'agneau. Au milieu de la place de la ville, parce que qu'est-ce que voit finalement Jean ? Il voit une ville, c'est la Jérusalem céleste. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. Ça vous rappelle quoi, l'arbre de vie ? Éden. L'arbre auquel on n'avait pas accès. Pourquoi on n'y avait pas accès ? Pourquoi ? Vous savez que quand on est chassé du jardin d'Éden, Adam qui est chassé, c'est toute l'humanité qui est chassée. Quand on est chassé du jardin d'Éden, pourquoi Dieu fait cela ? Pour nous protéger. Pour nous protéger de quoi ? D'avoir accès à l'arbre de vie en situation de péché. Et pourquoi maintenant l'arbre de vie est là ? Et pourquoi il est accessible ? Parce que l'eau qui coule du fleuve, qui coule, elle nous guérit du péché. Et l'arbre de vie est alors accessible. Et qu'est-ce qu'il a comme effet, cet arbre de vie ? Écoutez, c'est une espérance extraordinaire si on s'y arrête. Je trouve ça extraordinaire. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Pas que la guérison personnelle, mais la guérison collective, parce que mon péché, certes j'ai un péché personnel, mais il y a des péchés collectifs. Pensez, pour moi c'est tellement évident au XXe siècle, pensez aux péchés des Allemands qui ont suivi Hitler. En suivant un homme, un peuple s'est fourvoyé, en a massacré des autres. La guérison des nations. Il y a, dans cette eau de la vie, il y a une guérison personnelle et une guérison de toutes les conséquences collectives du péché de chacun. Parce que mon péché, il a des conséquences sur la vie des autres. Et tout cela est guéri par l'agneau. C'est extraordinaire, cette vision. Est-ce qu'on sent ensemble l'espérance qui nous est donnée là ? Moi, quand je vois le monde d'aujourd'hui, si je n'ai pas cette espérance-là, moi, intellectuellement, je désespère et je flippe. Hein. Quel monde je vais laisser à mon fils ? Vous avez encore envie de faire des enfants, vous ? C'est parce que vous avez l'espérance. Moi, j'ai des amis qui ne veulent pas faire d'enfants. Ils n'ont pas d'espérance. Ce monde leur fait peur, et ils ont raison. Et moi, je crois que l'agneau qui est mort il y a 2000 ans et qui est ressuscité, il a ouvert la porte et l'eau de la guérison des nations, de la guérison de l'histoire de l'humanité, tout entière, parce que Dieu la tient dans sa main, et Dieu est le Dieu du salut. Et par les mérites de Jésus, par les mérites de l'agneau, toute l'humanité peut être guérie. Alors, frères et sœurs, si nous entendons cela, qu'a vu Jean ? Il a vu l'accomplissement total et définitif de tout le plan de Dieu, au travers de la révélation de qui est Jésus. Et c'est pour ça que la Bible se clôt par l'Apocalypse. Tout est accompli. Mais tout est accompli en s'enracinant dans toute l'histoire qui a précédé. Parce que toute cette histoire, c'est tout le plan du salut que Dieu a développé pour racheter l'humanité, pour en faire un seul troupeau derrière un seul berger qui les mène vers le rivage du fleuve de la vie pour avoir accès à cette guérison totale et définitive dans la personne et dans l'œuvre du Messie, dans l'œuvre de Jésus. Oui, jamais les brebis ne périront. Jamais. Le seul messianisme, le seul vrai messianisme, c'est le messianisme judéo-chrétien. Tous les autres sont des utopies et des ersatz. Celui-là, il est déjà accompli en Jésus-Christ et il s'accomplira à une date du calendrier avec le retour en gloire, comme il l'a promis, de Jésus. Alors, entrons avec Jean dans l'espérance. Souvent, quand Marc nous parle de l'Apocalypse, je sais que Marc, c'est un de ses livres préférés. Ce n'est pas un livre de destruction, l'Apocalypse. C'est un livre d'espérance.
Et de bénédiction.
Et de bénédiction. Vous savez à quel moment il a été donné par Jean ? En pleine persécution des chrétiens, à la fin du 1er siècle, sous un empereur extrêmement cruel, c'était Dioclétien, si je ne me trompe pas. Un livre d'espérance. Frères et sœurs, entrons dans notre espérance et partageons-la parce qu'elle est vraie. Amen. Thank you.